Rappelons que l'année 1981 marquait un peu partout dans le monde la célébration du centenaire de la naissance de Pierre Teilhard de Chardin. Né en France, au cœur de l'Auvergne, en 1881, Teilhard est mort en exil à New York le 10 avril 1955, un dimanche de Pâques. « J'aimerais mourir le jour de la résurrection », avait souvent déclaré le père Teilhard. À sa mort, Teilhard de Chardin n'était qu'un inconnu aux yeux du grand public. Son œuvre n'avait pu être publiée de son vivant. Ce qu'il a voulu révéler au monde sur l'évolution de l'homme depuis les millénaires les plus reculés et sur la place qu'il occupe dans l'univers parut si révolutionnaire aux yeux de l'Église que l'imprimatur lui fut constamment refusé. 8 mois après sa mort, paraissait aux éditions du Seuil son œuvre maîtresse, Le phénomène humain. Le nom de Teilhard s'associait alors à celui des plus grands penseurs de son temps. Si aujourd'hui l'intérêt pour Teilhard ne revêt plus cet aspect d'engouement, voire de mode, qu'il avait il y a plus de 20 ans, alors que circulaient en cachette ses fameuses notes de travail, on assiste à une redécouverte et même à un approfondissement de son œuvre et de sa pensée. Pèlerin de l'avenir, comme il aimait lui-même se nommer, il fut à la fois géologue, paléontologue, philosophe, théologien et poète. Toute sa vie, il voulut assumer ses différentes vocations et, en raison de son immense besoin d'absolu, les harmoniser. Des savants, des théologiens, des penseurs et des amis de Teilhard, nous parlerons dans cette série de l'actualité et de la résonance de la vision du monde de ce chantre de l'évolutionnisme spiritualiste. Avec la découverte des hommes fossiles, Teilhard avait été amené à élucider le problème des origines de la pensée. Dans son étude du phénomène universel, il avait vu s'unir la science et la religion. Immense programme et sans autre fin que celle de l'avenir, disait-il lui-même. Ainsi, il écrivait ses lignes dans son œuvre « Le phénomène humain ». Et c'est au cours de cette construction obscurément commencée que notre science, pour avoir été amenée à se concentrer sur l'homme, va se trouver toujours davantage face à face avec la religion. Religion et science, les deux faces ou phases conjuguées d'un même acte complet de connaissance, le seul qui puisse embrasser, pour les contempler, les mesurer, les adorer, le passé et le futur de l'évolution. Ensemble, nous traverserons l'épopée que fut la vie de ce voyageur infatigable, qui, fasciné par les origines humaines, fouilla de ses mains la terre de tous les continents, de la Mandchourie à l'Afrique, en passant par l'Amérique. Homme de terrain, Teilhard chercha passionnément un sens pour l'homme et l'univers, animé par un amour absolu pour le Christ. Il écrivait ces lignes « Il me paraît inévitable que l'humanité soit amenée à se poser en masse la question du sens et de la valeur de la peine qu'elle se donne. » Et je ne doute guère que l'issue soit un acte de foi en l'avenir. Dans cette première émission, nos invités, Étienne Borne, Pierre-Emmanuel, Madeleine Barthélémy Madaule et Jean Langlois, nous parlerons de l'actualité de Pierre Teilhard de Chardin. Tout d'abord, voici Étienne Borne, philosophe et directeur de la revue française Forum.
Étienne Born, vous avez écrit Teilhard, une victoire sur le non-sens.
Oui. Alors, je crois que pour tenter d'expliquer cette formule, il faut réfléchir sur la notion de sens elle-même. Le sens a deux significations. Le sens peut vouloir dire d'abord une direction. Est-ce qu'il y a une direction dans le monde ? Et le sens, cela veut dire ce qui donne intelligibilité et valeur. On aura bien compris Teilhard, me semble-t-il, si on s'aperçoit que les deux significations du mot sens n'en font qu'une pour lui. La direction et le sens sont une seule et même chose. Au centre et au nœud de la pensée de Teilhard, il y a l'évolution. L'évolution gouvernée par la loi de complexité conscience. Les choses sont de plus en plus compliquées, complexes, et elles vont vers toujours plus d'approfondissement intérieur et de pensée. Donc, si on veut comprendre l'évolution, il faut se souvenir de la formule bien connue. Tout ce qui monte converge. Toutes les lignes de fait ont une direction dans la mesure où elles s'approfondissent, où elles sont de plus en plus elles-mêmes, convergent vers un accomplissement, vers un au-delà. Et c'est si le monde s'arrêtait, si le monde était immobile, ou si le monde n'était fait que de répétitions, où les choses s'imiteraient indéfiniment elles-mêmes, dans cette immobilité, le sens s'effondrerait. Il n'y aurait plus de direction, et il n'y aurait plus de signification. Dans la même mesure, si on lit l'évolution à l'envers, si on tente d'expliquer l'évolution par le passé, quand on déplace, dit Teilhard, un objet vers le passé, en réalité, on le renvoie, on le décompose en ces éléments les plus simples. Il y a donc une décomposition qui est encore un non-sens. Le contresens, finalement, est un non-sens. Si bien que ce que Teilhard propose, c'est littéralement, en effet, une victoire sur le non-sens. Or, si on considère le monde se développant dans le temps, si on considère l'histoire humaine, cette histoire ayant une signification, mais alors la question sera de savoir dans quelle mesure cette signification est purement immanente, si le monde est à lui-même sa propre explication, ou si au contraire ce sens qu'a le monde désigne non pas exactement d'abord un auteur du monde, mais un terme au monde. Faut, puisque tout va vers l'unité, eh bien il va y avoir quelqu'un qui nous attend. Et la conclusion de la pensée de Teilhard, c'est que Dieu attend toute l'humanité réconciliée et unifiée dans le Christ.
J'allais vous demander qu'est-ce qui menace le sens pour Teilhard.
Ce qui menace le sens, c'est si on a une vision statique du monde, si on regarde le monde dans son apparence et son immobilité. Alors en effet, cela menace le sens. Ce qui menace le sens également, ce sont les contradictions, les contrariétés, les antinomies qui nous assaillent et qui nous éprouvent dans le monde tel qu'il nous apparaît. Par exemple, l'incommunicabilité entre les consciences. Par exemple, il semble qu'il y ait une sorte d'antinomie, d'opposition entre un mouvement qui pousse l'humanité vers une intégration sociale, vers toujours plus de solidarité, et d'autre part, le sentiment de la personne dans ce qu'il a de singulier, d'irremplaçable, d'individuel. Et si les deux choses sont incompatibles, nous avons là, en effet, une menace contre le sens. Or, au contraire, pour Teilhard, il y a une convergence entre l'un et l'autre, et c'est la signification de la fameuse formule « l'union différencie ». C'est dans la mesure où les hommes sont de plus en plus solidaires que chacun sera capable d'être davantage et plus profondément lui-même. Il y a donc là une sorte d'optimisme, mais qui n'est pas un optimisme gratuit, mais qui paraît fondé sur la direction même du cosmos et de l'histoire. Et c'est dans la mesure où aujourd'hui, n'est-ce pas, on douterait du sens de cette histoire et de ce monde, que la pensée de Teilhard paraîtrait inactuelle. Mais la question du sens est la question des questions, et l'originalité et la grandeur de Teilhard, c'est de l'avoir posée avec la force qui convient. Teilhard reste actuel dans la mesure où une grande pensée qui pose les vrais problèmes est une pensée qui est toujours actuelle. Et l'un des problèmes fondamentaux posés par Teilhard, même si on peut discuter telle ou telle de ses solutions, le problème cependant demeure. C'est finalement le problème du sens. Dans quelle mesure est-ce que le monde a véritablement un sens? Dans quelle mesure est-ce que l'homme n'est pas simplement un donneur arbitraire de sens, mais dans la mesure où c'est le phénomène humain qui apporte un sens au monde? En tant que questionnement, Teilhard est indépassable. Après la mort de Teilhard, quand son œuvre a apparu, il y a eu un grand moment d'effervescence teilhardienne. En ce moment, il y a évidemment une retombée et comme un purgatoire. Ce qui est arrivé en effet à de très grands auteurs. Il est clair que Teilhard n'est pas à la mode, ce que signifie la comparaison avec le purgatoire. Il n'est pas à la mode pour beaucoup de raisons, dans la mesure, par exemple, où les problèmes qu'il a traités, comme le problème de l'homme, ne sont considérés comme étant idéologiques par beaucoup de secteurs de la pensée contemporaine. Aussi, nous l'avons déjà vu, parce que sa pensée propose une synthèse. Il y a à la fois une anthropologie, une métascience, une éthique, une politique, une mystique de Teilhard. Or, nous vivons dans le monde des pensées éclatées, un monde où on accentue beaucoup plus les différences. Teilhard n'est plus à la mode parce qu'il représente une pensée synthétique, une pensée englobante, une pensée qui cherche des réponses à tous les problèmes, ou plutôt qui cherche la manière dont tous les problèmes convergent. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en philosophie dans le monde, et même dans notre culture, dans un monde d'une pensée éclatée, avec l'apologie des différences. Ce pluralisme, qui était un danger, qui était presque un mal chez Teilhard, il triomphe partout. Et les pensées de l'unité sont en crise. Mais cette crise, pour moi, elle est quand même provisoire. Elle peut traduire un mal de notre culture. Et il me semble que Teilhard reste prophète dans la mesure où le prophète est celui qui rappelle les hommes à un essentiel. Or, dans le christianisme, je crois que Teilhard a rappelé les chrétiens à l'essentiel qui est le Christ. Ce Christ qui est encore invisible, mais qui doit apparaître à la fin des temps. Alors, ce n'est pas un prophète de l'avenir immédiat, mais dans ces deux sens, c'est peut-être en effet un très grand prophète.
après le philosophe Étienne Borne, place au poète avec Pierre-Emmanuel. En septembre 1981, le colloque organisé à Paris par l'UNESCO rendait hommage à Pierre Teilhard de Chardin pour célébrer le centenaire de sa naissance. Pierre-Emmanuel était alors le président du comité du centenaire.
Pierre-Emmanuel, vous avez participé à l'hommage qui lui a été rendu à l'UNESCO et vous avez salué en lui un vrai poète cosmique, le plaçant même aux côtés de Claudel et de Saint John Perse.
Comme Saint John Perse, qui aurait une vision de la présence divine dans le monde, comme Claudel aussi, c'est un homme planétaire. Vous comprenez, ça c'est très important, c'est assez rare dans le monde français. Il y en a quelques-uns, ce sont généralement des aventuriers qui se situent toujours dans le lieu de l'autre, qui sont ce que Ségolène appelait des exotes. Ce sont des gens qui vont là où est l'autre et qui essayent de le comprendre de l'intérieur. Alors pour lui, Teilhard, n'est-ce pas, l'autre c'était l'homme. Il était partout le même et partout différent. Et de ce point de vue, l'expérience qu'il a eue, je crois, de l'histoire humaine et aussi de l'histoire du cosmos, hein, de l'histoire de la Terre, c'est l'expérience de cette espèce d'altérité initiale, de diversification initiale qui progressivement, par l'effort de la pensée, tend vers l'unité. Ce qui le rendait particulièrement sensible à toute la variété des disciplines humaines. Je crois que c'est là qu'on fait une erreur en disant il était mauvais ceci et mauvais cela, il n'était pas mauvais théologien ou mauvais philosophe. Bien. Non, il était un homme de l'unification. Et comme tel, les théologiens ne le reconnaissaient pas dans leur catégorie, les philosophes ne le reconnaissaient pas dans leur catégorie, mais en fait, il les dépassait. Et il a ouvert, je pense, une certaine vision de l'amitié universelle des esprits à notre fin du XXe siècle. C'est une chose qui est pressentie par quelques-uns, qui est peut-être davantage pressentie par certains orientaux ou certains chrétiens que par, disons, le monde des intellectuels ordinaires. Mais il était de cette race-là. C'est pour ça qu'il a été tellement salué à l'étranger. Il était beaucoup plus salué, beaucoup plus admiré à l'étranger, en Chine ou au Japon ou aux États-Unis.
Que dans son pays.
Que dans son pays. Il considérait là comme un vrai grand homme. On a eu de la difficulté d'ailleurs même à faire admettre, n'est-ce pas, la célébration de son centenaire en France. Parce que finalement, Teilhard est toujours un peu marginalisé dans cette pensée où on ne sait pas trop bien où le mettre. On ne sait pas trop bien où le mettre parce qu'il est à la fois du tout et d'ailleurs. Il est tout à fait un génie français. C'est un génie français très clair, très lucide, très... Mais c'est un génie français qui dépasse de beaucoup les mesures ordinaires que se fixe l'esprit français dans sa compréhension des choses et des valeurs.
Vous avez eu de la difficulté?
De la difficulté à lui faire rendre cet hommage dans sa plénitude, vous comprenez. Au fond, il gêne encore les théologiens parce que, évidemment, sa conception du salut cosmique n'est pas tout à fait identique à sa conception, disons, à la conception rigoureusement traditionnel du christianisme, mais ce n'est pas vrai du tout qu'il est différent. C'est simplement qu'il traduit en termes mystiques ce qui est fondamentalement dans cette conception. Et puis, il gêne aussi par son caractère, œcuménique intégral, par le fait qu'il ne fait pas exception ni de personne ni de doctrine. Il considère que les doctrines, les idéologies elles-mêmes, les idéologies sont des accidents, vous comprenez, sont des accidents contradictoires, mais dans un mouvement. Enfin, il est tout à fait optimiste, il est beaucoup plus optimiste que je n'ai jamais été. Moi qui suis relativement optimiste, je suis en même temps saisi par le caractère maléfique de certaines formes de pensée, pas lui. Il, euh, les naturaliser à la sienne, en quelque sorte.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a eu, par exemple, une assez grande audience dans des pays où c'est tout à fait étrange de penser qu'il l'ait eu, comme les pays de l'Est européen.
C'était l'écrivain et poète Pierre Emmanuel. Et voici maintenant un professeur de philosophie, Madeleine Barthélémy Madaule, qui a consacré de nombreux écrits à la pensée théilhardienne.
Madame Madaule, à qui selon vous s'adresse l'œuvre de Théilhard?
L'œuvre de Théilhard s'adresse, je vais dire quelque chose de tellement simple que j'ai un peu honte, je dirais qu'elle s'adresse à tous les hommes. Et elle s'adresse aux croyants et aux incroyants. Et je peux vous dire que les incroyants sont aussi à l'aise quand ils lisent Théilhard que les croyants. Parce que les objections qu'il fait, les questions qu'il pose, ce sont celles que tout homme se pose. Et la foi qu'il propose, c'est si peu une propagande, n'est-ce pas ? C'est tellement une proposition en toute liberté de son interlocuteur que on se sent chez soi. Je crois que c'est... D'ailleurs, il me semble que c'est à Vatican II, dans la section consacrée aux incroyants, qu'on a vu le plus... Je ne sais pas s'il y était nommé, car on ne le nommait presque pas à Vatican II, mais ses idées circulaient beaucoup et spécialement dans cette partie de Vatican II qui touchait l'incroyance. Tout homme était touché par son argumentation.
Est-ce qu'il est au programme de l'enseignement de la philosophie en France, à la Sorbonne, à l'Université catholique?
Non. Il est certain que on ne donnerait jamais, par exemple, dans un programme de licence ou d'agrégation, le nom de Théilhard de Chardin, où on est très traditionnel. Mais... Par contre, il y a des thèses, beaucoup de thèses sur Théilhard. J'en ai fait moi-même passer beaucoup, hein, beaucoup.
En France?
En France et ailleurs. Nous avons eu beaucoup d'étrangers qui ont fait des thèses. En particulier, nous avons eu beaucoup de gens d'Amérique centrale qui cherchaient un moyen de synthétiser leur spiritualité chrétienne, c'était des chrétiens, avec une vision politique qui ne fut pas partisane, qui fut vraiment une vision constructive au-delà des divisions de partis politiques. Et alors, il y a de plus en plus de thèses de théologie. À mesure que le snobisme théilhard s'est effondré, le travail est devenu plus sérieux. Et on trouve actuellement beaucoup de prêtres en Espagne, au Portugal, enfin j'étais faire des conférences au Portugal, qui travaillent la théologie, où Théilhard disait ne pas vouloir s'aventurer. En fait, il s'y est beaucoup aventuré, puisque son exil pour la Chine a, comme vous le savez, daté d'un mémoire sur le péché originel, qui était un tâtonnement de recherche et qu'on a porté à Rome, comme si c'était un écrit définitif. Donc, il s'occupait de théologie quand même.
Après Madeleine Barthélémy Madaule, voici un dernier témoignage, plus près de chez nous, celui de Jean Langlois, président du Centre Théilhard de Chardin de Montréal.
Père Langlois, peu d'écrivains français ont suscité après leur mort autant d'intérêt que Théilhard. Comment expliquer ce phénomène?
Avant de disparaître, il suscitait de l'intérêt
mais on ne le connaissait pas bien, parce que ses écrits n'étaient pas encore publiés. Ce qu'on en connaissait, cependant, intéressait beaucoup les gens. Ça circulait sous le manteau, c'est polygraphié, puis reproduit un peu partout. Et surtout, la raison principale, c'est que ça répondait à une attente inconsciente des gens. Je pense bien que pour la plupart, c'était comme moi, quand on a découvert Théon, on a senti une libération. Parce que Théon nous apprenait à être à l'aise dans ce monde extraordinaire qui nous entoure, dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'aise parce que nous sommes chez nous.
C'était pas un peu étonnant que Théard ait une vision comme ça, parce qu'en France, à l'époque, il y avait un vent d'existentialisme qui secouait la France. Et...
Oui, et plus profondément encore, on pourrait dire que la spiritualité chrétienne était influencée en grande partie par ce qu'on pourrait appeler le jansénisme, ou si vous aimez mieux, ou plus technique, le manichéisme. Un peu ce qu'on retrouve dans L'Imitation de Jésus-Christ, un livre classique, qui semble nous inviter à une certaine défiance à l'égard du monde. L'Église, au cours des derniers siècles, disons, près de 100 ans, a découvert que même si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, il est dans ce monde. Théard était énormément préoccupé par ça. Quand on lit son journal de guerre, on voit que son premier problème, premier qui l'a mis en marche, c'était de savoir si le chrétien, du fait qu'il est chrétien, est moins humain que les autres. Et il a répondu non. Il n'est pas moins humain, au contraire, il doit être plus humain. De sorte que le monde, c'est pas dangereux, c'est pas un ennemi, c'est pas un obstacle, c'est un moyen.
Et puisqu'on parle encore de Théard aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'actualité de sa pensée?
Ce qui nous intéresse en ce moment, semble-t-il, c'est la vision du futur, telle que la présente Théard. On a dit de Théard qu'il était le prophète du 21e siècle. On commence à dire là, que dans quelques années, 20 ou 30 ans, on pourra vraiment comprendre un Théard de Chardin. Parce que Théard était préoccupé par le futur. C'était bien en avant son temps aussi, jusqu'à un certain point sous ce rapport-là. Et alors, il ne voyait pas d'autre issue à la violence, par exemple, à l'opposition entre les races, au problème de la surpopulation, et puis à la crise de l'énergie, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution. Il ne voyait pas d'autre solution que dans une collaboration entre les humains, allant jusqu'à un gouvernement mondial. Théard nous dit quelque part, je crois que c'est dans Le Phénomène humain, actuellement, avec l'invention des moyens de communication, l'humanité a, pourrait-on dire, tissé son cerveau, sa pensée collective. Il faudra qu'elle se fabrique ensuite un cœur. Nous vivions tous ensemble, nous aimions. Et nous ayons surtout, c'est ça que propose Théard pour le futur, une même ambition, un même défi. C'est ça qui va nous sauver si on regarde en avant. Et Théard proposait justement le Dieu, qu'il appelle le Dieu de l'en avant, qui serait comme une conjugaison, une synthèse du Dieu de vertical, qui vient de la Bible, disons, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le Dieu des marxistes qui disent que ce que nous avons à faire sur Terre, c'est de bâtir une société sans classe, un monde, un paradis. Alors ça, c'est le Dieu, pourrait-on dire, horizontal. Et d'ailleurs, voulait la conjonction des deux. C'était le Dieu, l'avenir de l'en avant. C'est ça qu'il propose. Alors ça, ça nous parle encore. Et nous sentons bien que nous avons besoin d'apprendre à nous parler, le dialogue nord-sud, ça nous donne un exemple, et ainsi de suite. Non seulement nous parler, mais collaborer, partager, travailler ensemble.
C'était Jean Langlois, président du Centre Théard de Chardin de Montréal. Vous avez entendu ce soir les témoignages d'Étienne Borne, de Pierre Emmanuel, de Madeleine Barthélémy Madaule et de Jean Langlois.